Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une ce midi, 10 personnes sont mortes dans une nouvelle attaque ce lundi 22 mars à Sambiko, attaque attribuée aux rebelles de la DIF. Il s'agit encore là d'un bilan provisoire car la fouille des corps se poursuit. 4 créseurs artisanaux sont morts accidentés dans un site de l'or de Kamituga en territoire de Mwenga. Nous sommes dans le sud Kivu. Le service d'encadrement des créseurs artisanaux condamne l'exploitation des minerais sur les sites impropres. Le directeur du ResMed Plus, Gilbert Tshibangu, s'exprime sur le projet pilote de construction et installation des résidences médicalisées à travers le pays au bénéfice des personnes âgées de plus de 65 ans. Il est notre invité. Bienvenue à tous. Ce journal part du Nord Kivu où une nouvelle attaque attribuée aux rebelles de l'ADF fait une dizaine de morts dans la journée de lundi 22 mars dans le village Samboko Chani-Chani, à une vingtaine de kilomètres d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Selon la société civile d'Oicha qui livre cette information, il s'agit encore là d'un bilan provisoire car la fouille des corps se poursuit. Le récit d'André Kitenge.
C'est dans la journée de lundi que ces hommes armés, identifiés comme des rebelles ADF, ont attaqué le village Samboko Chani-Chani, à une vingtaine de kilomètres d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, indique la société civile locale. Selon son président, tous ces civils ont été tués à la machette et à l'arme à feu par ces assaillants. Plusieurs autres sont portés disparus, a-t-il indiqué. Ému par cet événement sanglant, Philippe Paluku Bonane, président de la société civile d'Oicha, explique la scène.
Les gens viennent de mourir, on a au moins un nombre de 10 personnes qui viennent d'être tuées. C'est terrible, donc on est très malheureux. Donc nous ne savons où aller. Donc nous manquons là où nous pouvons aller parce que compte tenu de ce que nous disons, des alertes, de quoi, tout ça n'a pas de valeur. Donc l'ennemi est en train de circuler comme il veut, il est en train de faire tout ce qu'il veut, sans être inquiété. C'était à partir de 10 heures, c'était de la journée.
La même source indique que ces rebelles se seraient retranchés à Ituri, surtout que l'attaque a eu lieu à la frontière entre le Nord Kivu et la province voisine de l'Ituri. Cette même information est confirmée par l'administrateur du territoire de Beni. Cependant, tous les efforts pour joindre le porte-parole du secteur opérationnel Sokola Ingra Nord se sont avérés vains. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Le Congrès national CNC Fédération de l'Ituri se dit inquiet du regain des violences meurtrières dans la province. Les membres de cette formation politique l'ont dit ce mardi à Bounia au lendemain d'une forte tension observée dans plusieurs localités de Djougou et Irumu, deux territoires touchés ces derniers jours par l'activisme des groupes armés. Au cours d'un point de presse tenu à Bounia, cette formation politique, membre de l'Union sacrée pour la nation, estime qu'au regard de la situation sécuritaire actuelle marquée par des tueries des civils, la ville de Bounia risque d'être enclavée si rien n'est fait par les autorités. Emmanuel Onvibo, président fédéral du CNC Ituri, lance un appel au gouvernement pour accélérer le processus de désarmement des miliciens. Il s'exprime au micro d'Ezekiel Mouzalia.
On ne sait pas arriver à Njugu, on ne sait pas arriver à Maagi, on ne sait pas arriver ne fût-ce qu'à Nyakund, on ne sait pas arriver à Komanda où Bounia s'approvisionne aux denrées alimentaires. Et donc la question sécuritaire nous préoccupe. Il l'ignore, le président de la République avait dit qu'il se sentirait président de la République le jour où la paix sera établie à l'est de la République démocratique du Congo, entre autres en Ituri. Nous sommes en train d'être lentement enclavés. D'ici quelques jours, nous allons nous retrouver dans une situation où personne ne saura avoir même les braises. Nous vivons des alentours de la ville. Donc, alors, notre alerte, c'est d'interpeller d'abord la conscience de nos dirigeants qui sont à Kinshasa pour qu'ils sachent bien faire leur lobbying sécuritaire. Et aussi, nous alertons nos autorités provinciales, telle sorte qu'ils plaident vraiment pour la paix en Ituri.
Direction Nord Kivu, les habitants du groupement de Mbinza en territoire de Rutshuru appellent au gouvernement à mettre fin à l'insécurité ainsi qu'aux multiples tracasseries dont ils se disent victimes de la part des combattants des FDLR. Ces combattants imposent des taxes illégales aux populations et les soumettent aux travaux forcés notamment. Le noyau de paix, une structure basée à Nyamilima, demande à l'armée de mener des opérations militaires dans cette partie de la province pour assurer la population. Le vice-président de cette structure, Kambale Kanduki, a été joint par Gabriel Wamenya.
Kwa kweli hali
Assurément, la situation n'est pas bonne puisque les habitants vivent dans l'insécurité. C'était hier, les bandits sont entrés à Buramba et ils ont tué un militaire et blessé un autre. Jusqu'à présent, nous ne savons que faire à cause de l'insécurité. Ce sont des FDLR et les Nyatura qui sèment l'insécurité. Mais aussi, il y a quelques habitants qui s'appellent des FDLR. Ce sont les habitants des Binza qui se sont transformés aux FDLR. Ils font souffrir la population dans nos champs, ici, dans les Binza. Ils font payer aux populations la taxe de 1000 francs pour chaque colis de vivres. Et les populations qui vont dans leurs champs, ils sont pris de force pour aller travailler dans leurs champs. Alors, nous souffrons, nous ne savons que faire, la population souffre.
Notez que nous n'avons pas réussi à avoir la réaction du secteur opérationnel Sokola 2. Dans le territoire d'un Congolo, la situation humanitaire devient de plus en plus préoccupante. L'alerte est donnée par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Dans sa note d'information du 15 mars 2021, OCHA parle de plus ou moins 10 000 personnes réfugiées en Congolo. Ces personnes originaires de la province du Maniema ont fui leur village sous la menace des groupes armés. Expedi Mwamba Mubi nous fait l'économie de cette information.
D'après OCHA, la situation humanitaire de protection des personnes continue de s'aggraver dans le territoire de Congolo. Ce territoire subit l'influence du contexte sécuritaire précaire du Maniema. 4 des 46 aires de santé du nord de Congolo font face à une menace quotidienne des groupes armés du territoire voisin de Kabambaré. La note d'information de OCHA explique par ailleurs qu'entre novembre 2020 et février 2021, environ 9 500 personnes ont fui leur village dans le Maniema et ont trouvé refuge à Congolo. Jusque-là, conclut OCHA, les nouveaux déplacés n'ont reçu aucune aide humanitaire. Les vivres, les articles ménagers essentiels, les abris, l'accès à l'eau potable et aux soins médicaux, ainsi que l'éducation, restent leurs besoins prioritaires. Kalemi, Expedi Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Je le disais en titre, au Sud Kivu, 4 creuseurs artisanaux sont morts, accidentés dans un site de l'or de Kamituga en territoire de Mwenga. Cet énième incident mortel dans la zone s'est produit hier mardi soir. Le service d'encadrement des creuseurs artisanaux condamne l'exploitation des minéraux sur les sites impropres et avec du matériel interdit. Emmanuel Elamejo Akabedi.
L'accident de mardi soir est intervenu sur les sites d'exploitation des Ndjoli-Ndjoli en pleine ville de Kamituga. La cause serait le manque d'oxygène dans les galeries souterraines allant jusqu'à plus de 30 mètres de profondeur. 4 corps ont été sortis du sol, mais ce bilan serait encore provisoire. Un témoin que nous avons joint depuis Kamituga.
Dans un espace de 7 jours, on totalise déjà 10 personnes mortes. Hier, mardi, c'était 4 personnes là, tous des jeunes de moins de 30 ans. Mais c'est pour eux qu'il y avait plus de 4 personnes dans le puits. Jusqu'à présent, les services de l'État, même les SAIMAP, ils sont là sans rien faire.
Le service censé encadrer les creuseurs artisanaux pour la traçabilité de minéraux, c'est le SAIMAP. Le directeur provincial au Sud Kivu rejette la responsabilité sur les exploitants clandestins sur l'usage de matériel pourtant interdit.
Le problème de Kamituga, c'est qu'il y a toujours un problème d'asphyxie dans des puits qui est dû à l'utilisation de certaines machines, cochines. Et nous avons écrit à Kamituga pour interdire l'utilisation de ça. Malheureusement, il y a toujours ces clandestins-là qui les utilisent.
Signalons que c'est toujours à Kamituga que plus de 50 creuseurs artisanaux avaient péri et dans les mêmes conditions au mois de septembre de l'année passée. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, les cas de vol sont devenus récurrents en Mbujimayi. Ici, dépôts du grand marché de Bakwadianga dans la commune de Dibindi ont été vandalisés par les cambrioleurs non autrement identifiés. Ces hors-la-loi ont emporté dans un dépôt quelques ustensiles de cuisine. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Le maire de la ville manifeste son inquiétude étant donné que le marché est sécurisé par une quarantaine de policiers armés. Louis Dontumba Chapota demande qu'une enquête soit vite diligentée pour identifier ces voleurs. Louis Dontumba Chapota, maire de la ville de Mbujimayi, a été joint par Esther Ndalafina.
Il y a plus de trois dépôts qui ont été trouvés. Et les gens sont en train, je crois qu'ils étaient en train de chercher là où il y avait des téléphones. Les avenues où il y avait des téléphones, il y a des policiers. Ils sont en train dans les avenues parallèles pour trouver les dépôts, passer en train et traverser pour arriver là. Donc, ils traversent, ils trouvent que dans les dépôts, il y avait un vide. Ils vont dans le deuxième dépôt, ils ont trouvé et ils trouvent qu'il y avait que des petites histoires de ménage. Et puis, troisième dépôt, ils trouvent quelques casseroles et ils en prennent quelques lampes ou quelques radios et ils ressortent. Ils cherchaient probablement là où il y avait des téléphones pour prendre. J'ai demandé qu'une enquête soit diligentée par la police, étant donné qu'il y a des policiers sur le marché, beaucoup de policiers d'ailleurs. J'ai demandé qu'on me fasse le rapport détaillé et qu'on me dise comment on peut voler dans un marché où il y a plus de 40 policiers. Comment on peut voler là-bas? J'ai dit qu'il me fasse le rapport dans la journée, qu'on me fasse l'enquête.
Autre chose, à présent, la Belgique, la France et la Tunisie rassurent au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, de leur accompagnement à la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre des réformes annoncées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours des échanges hier mardi, l'ambassadeur de Belgique, Johan Indikeou, a rassuré à Modeste Bahati Lukwebo la volonté de son pays à accompagner la RDC dans la mise en place des différentes réformes annoncées par le chef de l'État, dont la lutte contre la corruption. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othmane Djerrand, aussi reçu par le président du Sénat, a quant à lui prôné pour le renforcement de la coopération avec la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Pour l'ambassadeur de France, les réformes électorales, la paix et la sécurité devraient être la priorité pour le Parlement et le gouvernement de la République démocratique du Congo. François Poujolas est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons parlé de sécurité à l'Est. La France a soutenu la création de l'école de guerre qui a été inaugurée par le président de la République au début de cette année. Et elle continue, en fonction des besoins des FARDC, à être en soutien dans la réforme du secteur de la sécurité. En matière de développement économique et social, le président du Sénat a dit qu'il fallait faire davantage pour attirer les investissements étrangers, améliorer le climat des affaires, pour enfin obtenir cette diversification de l'économie congolaise qui créera plus de richesses et plus d'emplois. Et puis, on a parlé également de gouvernance, et c'est notamment le cadre de la préparation des prochaines élections dont nous avons discuté. Et puis, il y a la gouvernance plus large de la chose publique, de l'État. Et la France est aux côtés de la RDC depuis très longtemps pour moderniser l'administration. Nous avons également parler de la décentralisation et de la péréquation pour permettre à l'ensemble des provinces de la RDC de développer et de prendre leur juste part au développement du pays.
La République démocratique du Congo est classée deuxième en Afrique et neuvième au monde en termes de fardeau de la tuberculose. Ces chiffres sont révélés par le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose en République démocratique du Congo à l'occasion de la célébration le 24 mars de chaque année de la Journée internationale de lutte contre la tuberculose. C'est l'occasion pour les États et les gouvernements de réfléchir sur le modèle d'appui efficace à apporter dans la prise en charge des malades tuberculeux. Selon Dr Michel Kassoua-Kayomon, directeur au programme national de lutte contre la tuberculose en République démocratique du Congo, il faut des moyens conséquents pour réduire le fardeau de la tuberculose en République démocratique du Congo. Il s'exprime au micro de J.R. Longuembo.
La tuberculose constitue un problème de santé publique majeur en RDC. Notre pays est classé en Afrique en deuxième position en termes de fardeau de la tuberculose et neuvième au niveau mondial. Cette année, en 2020, nous avons notifié plus de 200 000 cas de tuberculose sur l'ensemble du territoire national. Tout le monde a, je dirais, le bacille avec lui. Mais le bacille est dormant. Le bacille est quiescent. Il attend des conditions favorables pour se réveiller. Donc, le stress, la malnutrition, la promiscuité, le VIH, la COVID-19, pas tellement. Moi, il est vrai que les deux maladies attaquent le poumon. C'est vrai qu'un malade tuberculeux qui a eu une grave atteinte pulmonaire, une destruction du parenchyme pulmonaire, si par mégarde il attrape encore la COVID, qui lui aussi comme virus va s'attaquer au parenchyme pulmonaire, ça deviendra très très grave. Spécialement pour nous qui travaillons dans le milieu avec la tuberculose, mais pour toute la population aussi. Parce que personne n'est à l'abri de la tuberculose. Cette année, le thème mondial, c'est l'horloge tourne. Et le thème national, c'est l'horloge tourne. Comment réduire le gap de la détection des cas de tuberculose dans ce contexte de la COVID-19.
Actualité internationale.
L'ancien ministre des Finances, candidat au scrutin présidentiel congolais en 2021, a annoncé qu'il fallait saisir la Cour constitutionnelle pour faire annuler le vote du premier tour. Monsieur Nzon conteste les résultats officiels qui donnent le président Denis Sassou Nguesso avec 88% 47,57% des voix. Le président sortant de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a donc été réélu. Âgé de 77 ans, il est au pouvoir depuis 36 ans. Sans surprise, Benjamin Netanyahu arrive en tête des élections législatives en Israël. Selon les premiers résultats tombés mardi 23 mars, mais le premier ministre sortant n'obtient pas pour le moment la majorité nécessaire pour gouverner. Les résultats définitifs ne sont toujours pas connus. Le décompte des voix se poursuit et on va donc de rebondissement en rebondissement. Et à l'heure actuelle, il semble que les deux grands blocs ne puissent mettre sur pied une coalition sans l'aide d'un parti islamique.
L'invité.
Notre invité est Gilbert Tshibangu, directeur du RESMED Plus. Il s'exprime sur le projet de pilote de construction et installation des résidences médicalisées à travers le pays au bénéfice des personnes âgées de plus de 65 ans. Il fait aussi le bilan à mi-parcours de la campagne gratuite de service des échographies menée par la RESMED Plus depuis le mois de février dernier pour les personnes âgées et les femmes vulnérables. Professeur Gilbert Tshibangu s'entretient avec J.R. Lungembo.
Gilbert Tshibangu, bonjour.
Bonjour, J.R. Lungembo.
Vous menez une campagne depuis le 28 février. Cela va s'étendre jusqu'au 28 mai 2021 prochain, soit 4 mois pour la gratuité des imageries échographiques au bénéfice des personnes de bel âge. De quoi s'agit-il et quel est le bilan à mi-parcours?
C'est 3 mois de gratuité en imagerie échographique. L'objectif, c'est arriver à soulager tant soit peu les personnes du bel âge, c'est-à-dire 65 ans et plus, et les femmes enceintes. Nous avons acquis un appareil Doppler, échographie Doppler, et nous mettons ça à la disposition de notre peuple. On s'est dit, bon, pourquoi faire payer? Il faut quand même voir si ces personnes peuvent profiter aussi de cette technologie-là, gratuitement. S'agissant maintenant du bilan mi-parcours, je vous dis, messieurs JR, que nous, on a misé sur 10 personnes avant midi, 10 personnes après-midi, lundi, mercredi et samedi, mais là, on est débordé. Il y a des jours où on atteint 50 personnes. Ça vient des partout. Alors, nous, on ne peut pas chasser une personne de bel âge qui a quitté Maluku parce qu'il s'est dit, c'est gratuit, je dois être là. Donc, nous faisons un effort pour satisfaire ces gens-là.
Faute d'un accès universel à des soins de qualité après l'indépendance jusqu'à ces jours, des millions de vieillards meurent chaque année de la maladie ou des différentes maladies que peut peut-être guérir et prévenir. Ainsi, vous aviez initié ces projets de résidence médicale. Comment ça se passe?
C'est-à-dire, c'est une première, je dirais bien, en Afrique. Noir, vous savez, nous avons pris l'option d'héberger médicalement les personnes de bel âge, 65 ans et plus. On ne prend pas des personnes en bonne santé, on prend des personnes qui sont en perte d'autonomie partielle ou totale. Ils viennent, on les consulte et ils peuvent héberger chez nous pendant un temps ou nous les accompagnons jusqu'à la mort. Mais il faut un accompagnement digne à une personne qui est déjà en phase de perte d'autonomie totale ou partielle.
Après, on sait que sous notre essieu, la prise en charge des personnes de bel âge exige que cette dernière puisse avoir contribué tout au long de l'année cotisée. Mais alors, pour les cas du Congo, on sait qu'il y a encore un problème en termes de la participation de ces personnes dans des mutuelles de santé ou encore leur cotisation au niveau de la sécurité sociale. Alors, comment ça se passe concrètement?
Ouais, ça veut dire ici, nous prenons en charge des personnes qui peuvent être capables de payer quelque chose. Mais ça ne va pas être exorbitant. Des bienfaiteurs qui pensent qu'ils peuvent nous aider en subvention. Si, par exemple, l'État décide de nous aider, c'est bienvenu. Vous savez, les grandes nations ont tâtonné aussi avant d'arriver à se fidéliser à la mutualisation que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent qu'il faut aller se réfugier en Europe, commencer à vivre du CPAS ou de l'aide sociale. Mais ils savent pas qu'il y a des gens qui contribuent pour ça. Donc, c'est un peu difficile parce que les gens pensent que la gratuité, c'est une manne du ciel. Non, il y a des gens qui travaillent pour ça. Donc, nous devons comprendre qu'il faut payer un peu jusqu'au point où on arrivera à une couverture totale, soit par l'État ou soit par des mutuelles qui pensent qu'ils peuvent accompagner des personnes de bel âge.
Alors, pensez-vous qu'avec cette approche que vous utilisez, que vous proposez, vous serez à même à réussir en RDC la promotion de l'équité et la sécurité sanitaire?
Je suis très convaincu que nous y arriverons. Parce que, vous savez, le pouvoir actuel est très attentif. C'est la différence avec le...
Sur la couverture universelle.
Exactement. Très, 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 très attentif. C'est le social d'abord et nous pensons que nous y arriverons. Il y a de cela 20-30 ans, l'objectif était peut-être autre chose que le social, mais avec ce pouvoir pouvoir, je pense que nous y arriverons.
La suite de cette campagne, quelles sont les perspectives d'avenir? Vous allez vous limiter qu'à Kinshasa?
Je précise que nous avons des appels de partout. Vous savez, votre radio est très suivie et félicitations parce que vous avez relayé, collé correctement le message. Nous avons des appels de partout. Des gens veulent qu'on aille en province, mais nous avons des moyens limités. On ne peut pas. Et même ici à Kinshasa, déjà, on ne peut pas parce que nous avons vu qu'il y a engouement et on s'est dit, il faut aussi continuer à aider ces personnes qui sont très affectées par des maladies, qu'ils ignorent. Bientôt là, nous allons acquérir d'autres équipements en laboratoire et rayon X et je pense qu'il y aura aussi la gratuité pour le rayon X. Donc, aussitôt on termine la gratuité pour les imageries échographiques, nous allons aussi nous lancer sur la gratuité avec le rayon X. C'est nos appareils. Donc, on n'aura pas à s'inquiéter parce que...
C'est une œuvre caritative.
Exactement, je veux ça.
Gilbert Sibangou, merci d'avoir bien voulu nous accorder cette interview.
Merci beaucoup, JR, et je te revois prochainement.
Le professeur Gilbert Sibangou sera l'invité de parole aux auditeurs tout à l'heure à 13h. Ainsi se referme cette session de nos informations. Merci d'avoir suivi. Polydor Basunga était à la mise en onde, Élisée Chikota à la coordination, Alain Irunga à la supervision, je me nomme Nico Kalambay. Excellente suite de nos programmes sur Radio Okapi.